peu de repos et l'occasion de peaufiner les détails pour repartir de plus belle. La trêve internationale bat son plein en National League de hockey sur glace. Le HC Ajoie a bénéficié de quelques jours de congé et a repris le travail ce mercredi. Dans cette émission, on reviendra sur les dernières sorties de nos vouivres, la victoire à l'arraché à Kloten, la masterclass ou presque contre Zoug et les défaites sèches contre Fribourg et à Genève. On parlera de l'importance des engagements avec notre invité, le centre Christophe Cavalleri, qu'on apprendra aussi à connaître.
La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans notre podcast. C'est déjà le 8e de la saison et on en profite pour vous rappeler que vous pouvez le réécouter en tout temps sur rfj.ch et lqj.ch. Il y a aussi des plateformes de streaming, notamment Spotify, sur lesquelles vous pouvez normalement nous retrouver. On a toutefois un petit problème technique qui nous empêche actuellement de vous proposer les deux dernières émissions. On tâche d'y remédier au plus vite en tout cas. Comme d'habitude, pour aujourd'hui, on a mes deux acolytes qui sont là, évidemment, Raphaël et Yann. Salut messieurs.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et en aussi, pleine forme.
C'est, j'allais vous demander, tout va bien?
Ouais, ça va, les cadeaux de Noël sont prêts, tout est bien.
T'as de l'avance, magnifique.
Ouais. Ouais, on est là en forme et puis on se réjouit d'accueillir notre invité.
Ouais, la transition est toute faite, salut Christophe.
Bonjour.
Les cadeaux de Noël sont sous le sapin aussi?
Plus ou moins, plus ou moins, pas tous encore.
T'as pu profiter de ces quelques jours de congé avant la reprise de l'entraînement hier?
Ouais, bah en fait ça tombe bien qu'on joue à Genève le dernier match avant la pause, comme ça j'ai pu rester directement là-bas et puis passer un peu de temps avec la famille et puis là on est remonté mardi soir.
La bande du jeudi.
Salut Christophe, tu as donc 30 ans et tu as grandi à Saint-Lin, au pied du Mont-Tremblant. Tu as été drafté par Toronto en 2013. Ah non, petit bug, là, je me suis trompé de fiche, là. Hein. Je crois que j'avais celle de Fred Gauthier.
Ouais, moi, je comprenais, c'est pas non plus.
Oui, il devait être là, hein,
voilà.
C'est vrai.
Non, c'est pas Fred Gauthier, c'est Christophe Cavalleri. Oh, c'est ça, mais on est très heureux de t'avoir aujourd'hui.
Et il est aussi grand que lui, hein.
Oui.
Presque. Donc c'est vrai qu'on pouvait presque confondre. Ouais, je sais pas quelle taille il fait, lui, mais...
Ça c'est en tout cas, ouais, c'est vrai.
Pas le même poids en tout cas.
Non, t'es plus mince, ouais.
Non, Christophe, 23 ans, bientôt 24 en janvier, c'est en ça janvier, ouais. Ouais, ouais. Donc je suis juste. Tu es un des nouveaux visages offensifs du HC Ajoie dans un alignement très concurrentiel, on le sait. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Tes débuts dans le Jura ont été un petit peu chaotiques avec une blessure en plein été. Tu joues ton premier match le 17 octobre seulement face à Kloten. Raconte-nous pour commencer un petit peu ces mois d'été et cette arrivée au HC Ajoie.
Ouais, c'est vrai que ça a été pas facile au début. J'ai dû un petit peu m'adapter. Ça a été un peu compliqué l'adaptation au début pour moi. C'est vrai que j'ai eu une blessure cet été qui m'a un peu ralenti. Ensuite, de nouveau, la même blessure au mois d'août. Donc c'est vrai que ça m'a pas facilité la tâche. Maintenant, ça va mieux. Ça fait quelques semaines que ça va mieux. Petit quoi qu'on va dire. Il y a deux semaines de nouveau avec s'adducteur encore qui sifflait un peu. Mais heureusement, c'était rien de trop grave. Donc... voilà, maintenant j'espère qu'on va aller de l'avant et puis que ça sera de mieux en mieux.
Les blessures, elles n'arrivent jamais au bon moment, mais là c'était particulièrement compliqué pour toi parce que pour la première fois de ta carrière, tu vivais voilà, une aventure dans un nouvel endroit. Voilà, c'était un petit peu comme un renouveau pour toi, ça doit pas être évident là, dans ces conditions-là où tu dois un petit peu t'affirmer. Et puis,
Ouais, c'est sûr, j'ai tout à prouver quand j'arrive ici au mois d'août. Déjà, voilà, j'étais pas... Si je suis honnête avec moi-même, j'étais pas bon sur la glace au mois d'août. Donc les matchs amicaux, tout ça, ça s'est pas bien passé pour moi. Et puis en plus, après, quand de nouveau, ça allait un petit peu mieux. Et puis là, la blessure, ça m'a mis un coup, c'est sûr. Mais après, voilà, j'ai travaillé fort en dehors de la glace. J'ai fait ce que je pouvais. Et puis maintenant, tout va bien, j'espère.
Bon, Christophe, ça s'invente pas. L'année passée, avec Genève Servette, tu marques deux buts durant toute la saison. Les deux buts contre...
Ajoie. Voilà. Pas entre eux.
Voilà. Et le deuxième, alors que ton entente venait d'être officialisée, c'était genre quelques jours après, c'est ça?
C'est
hein
possible, ouais. Ouais, je ne sais plus exactement les dates. Mais ouais.
Et cet été, match amical avec le HC Ajoie, fin août, tu marques un seul but contre...
Genève.
Ah, voilà. Tu te fais chambrer là un petit peu.
J'ai loupé par contre, quand ils sont venus là, championnat, je n'ai pas marqué.
Ouais.
J'ai loupé celui-là.
C'est des réussites un petit peu particulières. Il y a quelque chose qui te motive un petit peu plus?
Ouais, c'est vrai que les matchs contre Genève, c'est toujours motivant, c'est sûr. Voilà, quand ils sont venus, je connais, à part deux, trois nouveaux joueurs, je connais tout le monde. Maintenant, j'essaye de chaque match les prendre les mêmes, de tout donner, de jouer à 200%, être intense, etc. Et puis voilà, j'essaie d'apporter ce que je peux à l'équipe.
D'accord. Bon, je termine avec la rubrique statistique. Premier but de ta carrière en National League, c'était face à Lausanne, un derby, un chaud derby. Le 17 février 2023, victoire 6-2. Raconte-nous un petit peu dans quel contexte tu marques ce but.
Alors, c'était, je m'en rappelle très bien, c'était sur une passe de Thomas Ness. Voilà, c'était mon premier but, forcément, on s'en souvient. Après, c'est vrai que j'en ai pas marqué 20 000 non plus, donc je m'en souviens aussi. Mais ouais, c'était sympa parce que c'était l'année où tout allait bien pour nous. Voilà, d'un derby à Lausanne, on gagne 6-2. C'était toutes les étoiles étaient alignées ce soir-là. Et puis j'ai pu marquer mon premier but. Donc, c'était un super feeling, c'est sûr.
Juste en passant, dis-nous, Marco Cavalleri qui joue à Holton, 26 ans, c'est de la famille ?
C'est mon cousin, ouais.
Ah,
c'est
voilà.
Mon cousin.
Ouais, ouais. Tu es un pur produit Genevois. Tu es un Genevois, c'est ça ?
Voilà, t'as... Bah, je suis vaudois, en fait, de base.
Oh là là là.
Ouh là là, le traître.
Je suis un peu. voilà.
Vas-y, raconte-nous.
En fait, j'ai grandi à Vernion.
Oui.
Donc, c'est là où mes parents habitent. Et puis.
On veut le nom du village ici.
Bogibossé,
d'accord.
C'est vraiment à la limite, en fait, avec Genève, c'est plus proche des Vernets que de Lausanne, quoi. Et puis, bah, mon frère jouait à Genève, donc, plus pour mes parents, forcément, c'était plus facile d'avoir les deux enfants au même endroit. Donc, j'ai toujours joué à Genève, pour ma part. Et puis après, à l'école aussi, je suis parti vite à Genève. C'est vrai que dans ma tête, je suis plus Genevois quand même, mais c'est vrai que j'ai les plaques vaudoises sur la voiture.
D'accord. Ouais. Une info, on a déjà eu ce cas-là, c'est pas la première.
Oui, ça me dit quelque chose aussi, mais je sais plus qui c'était.
Bah, ça devait être Berthoud, non ?
Jonas Berthoud,
ouais. Exactement. Il est vaudois aussi, il est
voilà.
Pas valaisan.
Exactement, voilà, ouais.
On en parle souvent.
On a Noah Patnaud qui est entre Neuchâtel, Jura Bernois. Tous un petit peu entre plusieurs cantons, hein, ces joueurs.
Pourquoi le hockey sur glace, voilà, au Vernet, c'était pour suivre le grand frère, c'est ça, si j'ai bien compris.
Mon frère avait commencé le hockey parce que de base, je crois qu'il était trop jeune pour le mettre au foot. Parce que mon père, lui, c'est un footeux. Et il voulait le mettre au foot, mais il était trop jeune, donc il s'est dit en attendant, le met au hockey. Bon, d'abord, lui, il a commencé à Lausanne. Après, il est parti vite à Genève, et quand moi j'ai commencé, c'était plus facile pour les parents. Moi, j'ai appris à patiner à Morges, par contre. Après, on est vite les deux partis à Genève, et puis après, on est toujours resté là, quoi.
Tu as fait tout le cursus junior à Genève, où j'imagine bien qu'il y a eu un personnage central aussi dans ta fin de carrière chez les juniors. C'est Pat Aymon, c'est ça ?
Non, Pat, je ne l'ai jamais eu en junior. Ma première année junior, c'est l'année où il est parti avec la
première équipe.
Première, je crois.
D'accord, ouais.
Et du coup, j'avais Pat Bosch en junior.
J'avais la moitié quand
et
même.
Et après, ouais.
C'est ça. Pat Bosch qui a joué au.
Patrice Bosch, HC Ajoie.
Exactement.
T'as joué avec ?
On a joué avec en première ligue, ouais, on est monté en Ligue B avec lui. Ouais.
Je savais même pas qu'il avait joué ici.
Ah ouais, il a joué quelques années au HC Ajoie. Il nous faisait le coup de la pomme, c'est-à-dire que les femmes lui croquaient le cœur puis lui laissaient le trognon. C'est son truc. Mais beaucoup de problèmes d'adducteur aussi pour Pat Bosch durant sa carrière.
Ouais. Des anecdotes,
Et puis après, par contre, Pat Aymon, du coup, je l'ai eu en ma première année. Pro, je crois que c'était lui, mais je pense qu'une demi-année, puis après, il s'est fait virer pour Cadieux, quoi.
Genève, c'est une ville de hockey ?
Non, pas tellement. Oh. Pas tellement.
Bah, c'est troisième. Pas, pas tellement, pas de bûche, pas tellement.
Quand on parle de ville de hockey, je pense plus à Fribourg. C'est vrai qu'on sait que c'est une ville de hockey, même à Joie. On sent dans les rues, on sent que les joueurs, les gens, ils connaissent. Chaque jour, je vois des jeunes avec des sacs à dos, des écharpes, des vestes.
Mmh. On reçoit des joueurs du HC Joie ici tous les 15 jours, mais là, cette fois, on a un joueur qui peut se targuer d'être champion de Suisse. Et champion d'Europe. C'est beau ça, hein? Bravo.
Ah ouais. Merci.
Ouais, je pense que c'est des moments qui restent là. Hein. T'as préféré lequel?
Voilà. Disons que champion suisse, on sait que c'est un peu plus prestigieux que champion d'Europe quand on pense au hockey. Après, c'est vrai que le champion d'Europe, je l'ai joué. C'est vrai que champion suisse, les playoffs, j'étais un peu. Des fois, je jouais, des fois, je jouais pas. Ça dépendait un peu des blessures, tout ça. Tandis que champion d'Europe, c'est vrai que j'étais là pour la finale, donc j'étais plus acteur, on va dire, donc c'est vrai que c'est plus, c'est indifférent. Ouais, mais à choisir, je pense que je dirais quand même champion suisse, je dirais.
On voit qu'on se consulte pas, hein, parce que tu m'as piqué ma première question du quiz, Rafi, avec ses titres de champion d'Europe et champion suisse. D'ailleurs, il y a encore un autre titre de champion suisse, Christophe. C'était
c'est
pas que les adultes, celui-là.
C'est
les jeunes,
ouais.
Regarde-la pour après.
Là, c'est pas...
Trop tard. Non, on va changer de question. J'avais justement prévu une question subsidiaire au cas où. Donc, ouais, il était aussi champion suisse avec les U20.
Ouais, alors j'ai joué quelques matchs, j'étais pas vraiment...
Mais il est quand même dans tes stats. Hein.
Il est dedans, mais bon, j'en parle pas trop parce que je me sens pas légitime vraiment d'en parler.
À l'époque, qu'est-ce qui vous a permis d'aller au bout justement, là, cette génération de joueurs genevois là, qui a touché le Graal à deux reprises, au niveau suisse et au niveau continental. C'était quoi le moteur du succès genevois?
Bah, déjà, forcément, on avait des super joueurs, des super étrangers qui vraiment faisaient la différence. C'est vrai qu'à Genève, ça a toujours été quand même la force. Les étrangers qui sont très bons, on avait un... Puis c'est vrai que l'année où on a été champion suisse, tout tournait pour nous. C'était alors on jouait vraiment bien. Il y avait une nouvelle dynamique avec Cadieux qui est arrivé l'année d'avant. C'était vraiment dans le vestiaire, on avait une ambiance super. On avait 2-3 joueurs qui vraiment étaient capables de réunir le groupe et de vraiment de lier tout le monde ensemble. Et je pense qu'après, c'est ce qu'on a un peu perdu. Les années d'après, où c'était un peu moins bien, je pense que l'ambiance dans le vestiaire, tout ça, je pense que c'était pas aussi bon qu'avant. Et puis après, voilà, je pense que tout doit être aligné pour gagner des championnats comme ça, quoi.
Pourquoi à ce moment-là de ta carrière, tu décides de quitter les Vernets? T'étais au bout du chemin, là, à Genève, t'en pouvais plus du dossier de la nouvelle patinoire?
Ouais, je pense que j'avais fait un peu le tour. C'est vrai que j'étais un peu dans ma zone de confort, là-bas. J'étais à la maison, voilà. Et puis, là, maintenant, ça me force à partir, à commencer un nouveau chapitre. Et puis, voilà, j'avais envie d'avoir de nouveaux objectifs, de sortir de ma zone de confort, justement. Et puis de voir de nouvelles choses, de voir un nouveau club, des nouveaux coéquipiers, une nouvelle ville, tout ça. Et puis après, maintenant je suis livré à moi-même. Et puis c'est vrai que pour l'instant, je trouve ça vraiment, j'apprends beaucoup de choses. Et puis je trouve que du positif là-dedans.
Dans tes objectifs que tu t'es fixé en venant à Chargeois, peut-être justement quitter le club, enfant du club, on n'a jamais non plus, on dit qu'on n'est jamais prophète en son pays. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu avais comme objectif de jouer plutôt, justement, avoir plus de temps de jeu, jouer sur les deux premiers blocs, ou comment tu te voyais, quel rôle tu te voyais tenir au Chargeois?
Avoir plus de temps de jeu, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'à Genève, j'étais toujours un peu... on joue quand il y a des blessés, on joue quand les gens ne sont pas là. C'est dur de gratter des places, parce que aussi, il y a vraiment beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent là-bas. En venant ici, c'est vrai que mes objectifs, c'était juste le temps de glace, il faut que j'aille le chercher. Il ne me sera pas donné, ça c'est clair. Donc, c'était plus mes objectifs de réussir à m'adapter, réussir à sortir de ma zone de confort, aller chercher ce que j'ai besoin vraiment dans mon jeu, c'est-à-dire d'avoir plus la hargne et tout ça. Et puis, je sais que j'avais entendu déjà que l'entraîneur ici, c'est vraiment ce profil-là. Parce que j'avais joué avec Maurer, du coup, qui nous en avait un peu parlé au jour de Genève, qui nous disait que les entraînements c'était dur, l'entraîneur il poussait beaucoup, et puis c'est un peu ce que je voulais aussi chercher. C'est vrai que c'est ce qui manque dans mon jeu, et puis pour l'instant je suis content de ma progression, on va dire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr.
En rejoignant le HCA, Joachim, tu t'imaginais avoir autant de concurrence au centre, là, parce que là, il y a vraiment du monde, et il y en a encore plus cet été, là.
Oui, cet été, c'est vrai qu'on était beaucoup. Après, moi, je peux jouer à l'aile aussi. Je suis tout autant à l'aise à l'aile qu'au centre. C'est vrai que tous mes juniors jouaient au centre. Mais dès que je suis passé pro à Genève, j'ai vite basculé à l'aile, parce que c'est vrai que les équipes, elles sont... À Genève, il y a des centres, même sur la 4, c'est toujours des super joueurs. Donc j'ai dû m'adapter à jouer à l'aile, et puis au final maintenant je pense que je suis tout autant à l'aise à l'aile qu'au centre. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition, et je pense que c'est de la compétition qui est saine aussi, parce que ça nous pousse à tout donner, à vouloir être meilleur que l'autre, à travailler plus. Donc je pense que c'est très sain d'avoir beaucoup de joueurs. Après c'est vrai que là on est vraiment beaucoup maintenant. Mais je pense que moi en tout cas, ça me motive à aller chercher, gratter des places, une place, et puis grimper un peu les échelons, quoi.
Tu es parti d'un environnement, on va dire, à succès quand même dernièrement à Genève, ou en tout cas où les attentes sont élevées, une équipe qui joue le haut du panier, à une équipe qui est tout en bas, avec déjà passablement de points qui sont en retrait par rapport aux autres concurrents. T'as jamais regretté finalement d'avoir posé tes valises à Port-en-Truil ?
Non, pas du tout. Bon, déjà, à succès, l'année passée, on a fini 12e, je pense, avec Genève. Donc, succès, c'est vite dit. Mais non, mais après, c'est sûr que je savais qu'en arrivant ici, on n'allait pas finir top 6. Mais c'est sûr que, en fait, c'est un challenge. Donc, c'est vrai que c'est pas la même approche. À Genève, il y avait beaucoup d'attentes sur l'équipe. Dès que ça allait un petit peu moins bien, c'est vrai qu'on entendait beaucoup de critiques, tout ça. Ce qui est normal, au final. Mais en venant ici, on savait qu'il va falloir travailler tous les soirs. Il va falloir aller chercher des points. Il va falloir tout le temps travailler plus que l'adversaire si on veut gagner des points. Puis je pense, pour un jeune joueur, je pense que c'est bien parce que ça nous pousse vraiment dans nos retranchements et puis ça nous pousse à être vraiment meilleur, à tout donner aux entraînements, à aller chercher ces points chaque soir parce que c'est vrai que ça a été un peu nos points faibles là, ces derniers temps. On fait un bon match, ensuite on se relâche, le match d'après on joue peut-être à 80%, mais ça suffit pas. On a besoin de tous les soirs avoir plus faim que l'adversaire parce que voilà, si on veut gagner des matchs, ça va devoir passer par là parce que on n'a pas, si on est honnête, on n'a pas le même talent que les autres équipes, mais on peut le compenser par la faim, aller travailler plus que les autres, jouer plus physique. Et puis je pense que ça peut compenser. Et puis on l'a vu à certains matchs qu'on a montré qu'on était meilleur que les adversaires.
Sur ces deux derniers matchs la semaine passée, on a vu par contre des équipes qu'on va dire solides, hein, Fribourg et Genève. Offensivement, ça a vraiment été difficile pour vous, hein, d'amener du poids devant le but adverse.
C'est vrai qu'on a un peu des problèmes à marquer des buts, mais même depuis le début de la saison, je dirais, on n'a jamais vraiment marqué beaucoup de buts. Je pense qu'il faut qu'on joue plus simple, il faut qu'on amène plus de trafic, plus de tirs sur le but. Souvent, on cherche le jeu parfait, mais c'est pas comme ça qu'on va commencer à gagner des matchs. Les matchs, on sait qu'on va pas les gagner 8-0. Si on gagne les matchs, ça va être des... On veut aller chercher des 2-1, des 3-1, peut-être 1-0. Mais voilà, il va falloir jouer plus simple, je pense. Et puis être solide en défense. Ça, c'est vrai que les derniers matchs, on a laissé un peu, même à Davos, où on prend des valises à chaque fois. Je pense que quand on a eu la bonne série, où on allait chercher des points chaque match, on en encaissait un, voire deux. Souvent, c'était en powerplay. En plus, contre Lausanne, je pense, on prend 3 buts en powerplay. Voilà, il n'y a pas de secret. Il va falloir aller chercher des matchs serrés où on va avoir ce léger avantage parce que peut-être physiquement, on sera plus en forme. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi pendant les pauses, aux entraînements. C'est très, très intense pour aller chercher ce petit avantage-là qu'on peut avoir par rapport peut-être au talent qu'ont les autres équipes.
Pourquoi en poser une ?
Vas-y, vas-y.
Tu m'autorises.
Oui, oui.
J'ai juste noté. Pourquoi le 73 ? Raison particulière pour l'interrogation ?
C'est l'année de naissance de ma mère, le voilà. 73, c'est pour ça. 1973.
Bon choix, voilà.
Le débrief.
Ok, on va se pencher un peu plus en détail sur les 4 dernières sorties du HC Ajoie. Donc, il y en a 2 qui ont été couronnées de succès, hein, Kloten et Zoug, et 2 où Ajoie a vécu la défaite, c'était donc contre Fribourg et à Genève. 2 visages du HC Ajoie, j'ai envie de dire, t'en as parlé Christophe il y a quelques secondes, hein, solide, hargneux à Kloten, dominateur, enchanteur, j'ai presque envie d'utiliser ce terme par moment, en tout cas contre Zoug. Et puis, une défaite contre Fribourg avec... ces 2 visages du HCA qu'on a vu dans le même match, hein, d'abord séduisant et puis ensuite à baisser un petit peu les bras et à desserrer un petit peu l'étreinte. Et puis à Genève, HCA qui globalement a été dépassé. Voilà, pour les 3 étoiles, je pense qu'il n'y a pas de grand suspense. Je peux imaginer qu'on a les 3 le même joueur, c'est Cole Cormier. Vous l'auriez aussi mis, Yann et Rafi?
Oui.
Ouais, effectivement, sur ce dernier match, il a trouvé le fond du filet. On l'a entendu à l'interview se dire qu'il fallait qu'il trouve un moyen justement pour trouver le fond du filet. Il le trouve maintenant quasiment à chaque match, donc mérité ces étoiles.
Oui, 4 matchs, 4 points, un assist pour se mettre dedans, 3 buts ensuite, dont des buts, un but en tout cas qui est déterminant, l'égalisation contre Zoug. Au-delà des statistiques, je trouve que son apport est conséquent. Il amène du dynamisme, il amène cette volonté, cette insouciance, ce côté je me bats sur tous les pucks que personnellement j'adore. Et puis si en plus de ce profil-là, il arrive à édulcorer la feuille statistique, je pense que ce sera un renfort sur la durée.
Il a marqué le 75% des buts de HC Ajoie sur les trois derniers matchs. C'est comme, impressionnant, guillemets, mais ça veut quand même dire voilà, le fait qu'il a cette faculté à aller chercher le chemin des filets. Et puis après, ça montre aussi ben voilà, que c'est un petit peu plus compliqué pour les autres attaquants en ce moment. Ouais, moi, je suis content de voir ce Cole Cormier décisif. J'étais un petit peu plus sceptique sur ses premiers coups de patin au HC Ajoie, où j'ai trouvé qu'il avait un petit peu de la peine à s'intégrer au système. Il lui a fallu un petit peu du temps, mais là, effectivement, là. Il le monte, là aussi, en allant gratter aussi souvent devant la cage adverse. Il a presque parfois un petit peu, on sent un petit peu un peu de routine là chez lui.
Oui, il va où ça fait mal, j'aime bien.
Un petit peu cette
ouais.
expérience aussi, là, voilà, alors qu'il est jeune, là, qui a fait du bien sur ses dernières séquences.
Ouais, mais l'expérience canadienne aussi, hein, d'aller où c'est que ça fait mal, jouer sur des petites glaces, jouer sur des espaces fermés. Donc on voit qu'il a l'habitude aussi d'espaces restreints, trouver des espaces. Puis même quand il n'est pas sur la feuille des pointeurs ou des buteurs, je pense au match à Zurich, il ne fait pas de points là, mais c'est clairement la meilleure ligne de HC Ajoie avec Sopa et puis Romanenghi, je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, on a trouvé là des joueurs qui se complètent super bien avec Ken Sopa, par exemple, qui est aussi, on l'a dit les dernières fois, en phase ascendante. Et puis, ouais, ces deux joueurs qui virevoltent un peu sur les ailes, là, ça donne une ligne assez intéressante.
Est-ce que c'est pas le moment peut-être de lui donner un petit peu plus de responsabilité à un joueur comme Cormier, peut-être pour
avec la confiance en plus maintenant, ouais. Pourquoi
peut-être,
pas.
C'est une question qui peut se poser aussi.
Ton regard, Christophe, peut-être sur Cole.
Bah, c'est vrai que c'est un très bon joueur avec le PAOK. Il l'a montré, il l'a prouvé. Après, voilà, je pense que lui donner plus de responsabilité, moi, je serais complètement d'accord avec vous. Parce que c'est vrai que sur les derniers matchs, il montre de quoi il est capable, il marque des buts, il est efficace. Voilà, on peut pas trop en demander plus.
Les deux étoiles, ça a été un peu plus compliqué de trancher, on l'a dit, avec ces deux visages du HCA. Je les ai quand même mises à Nettinen. Son retour a été couronné de succès après quelques minutes à peine. Deux buts en powerplay à Kloten qui lance le HCA vers la victoire. Hein. Doublé Nettinen à Kloten et puis à ce penalty. Inspirant, magnifique, qui offre la victoire au HCA contre Zug aussi. J'ai envie de dire, il est deux fois déterminant dans les résultats, c'est ça qui a aussi pesé dans la balance. Ça ne fait toutefois pas oublier non plus qu'il y a aussi une forme de manque de régularité. On ne peut pas attendre non plus chaque soir de Turkulainen, Nettinen et Onka qui fassent basculer les matchs pour le HCA. Mais Nettinen peut encore faire mieux, ça j'en ai quand même la conviction. Et puis le jeu de puissance du HCA était quand même un peu en deçà ces derniers matchs. Ça aurait pu être la relance ou... La mise sur orbite contre Fribourg, ça ne l'a pas été. J'ai regardé aussi, en gros, il y a 22 minutes dernièrement de 5 contre 4 qu'Ajoie n'a pas su faire fructifier après les deux réussites donc de Kloten. Donc globalement aussi, hein, une première idée de jeu de puissance qui traîne la patte pour ainsi dire ces derniers temps. Et c'est aussi pour ça que ça m'a un peu retenu. Mais néanmoins, je pense que Nettinen, avec son talent et son côté déterminant sur les matchs de Kloten et Zug, mérite ses deux étoiles.
Le niveau de confiance qu'il doit avoir au moment d'aborder oui. son penalty pour tenter son move là, alors qu'il y a 1-0 pour l'adversaire dans la série, voilà, il a la confiance au top à ce moment-là.
Oui, puis tu parles de la confiance, ça fait du bien aussi. C'est un joueur qui a été blessé, qui revient. On voit qu'il réfléchit pas. Hein. Les deux premiers pucks qu'il a en jeu de puissance, c'est boulet de canon, filet, le penalty contre Zouk, c'est on ferme les yeux, on essaie un truc et puis ça marche. Ça fait du bien de voir ça parce qu'on sent aussi quand même globalement un HCA qui est souvent un peu crispé, quoi.
Mais peut-être que ces deux buts qui marquent à Kloten là, sur ces deux séquences au powerplay, peut-être que ça rend pas service au HC Ajoie par la suite, parce qu'on a quand même l'impression que sur le powerplay, on a quand même ces joueurs qui sont assez, entre guillemets, obsédés par la position de Nettinen, et on essaye toujours de le chercher, de voir où il est, de le faire un petit peu oublier pour mieux le retrouver. Et j'ai parfois l'impression que ça pèse aussi sur l'efficacité du HC au powerplay.
Nettinen, c'est un profil de joueur, bah c'est ce qu'on appelle un sniper. Hein. Il a été pris en équipe de Finlande durant la trêve là aussi pour ça, parce que bah c'est un grand talent et les clubs finlandais ont un œil sur lui, on peut le lire dans la presse. Mais oui, c'est un grand talent puis qui a de la confiance. Après son jeu, on va dire qu'il est assez simple, mais il sait de quoi il est capable, il sait ce qu'il sait faire. Et puis il se complique pas la vie, il fait ce qu'il sait faire et puis ça marche. Donc, mais comme on l'a dit avant, des fois. Presque, oui, le HC Ajoie s'est peut-être vu trop beau après cette série de points, cette domination contre Zug, on les a trouvés super bons. Puis peut-être, justement, comme Christophe l'a dit avant, on se complique depuis quelques matchs beaucoup la vie contre Genève, contre Fribourg. on prend plus de shoot au goal, on cherche le jeu parfait, on cherche la petite passe en plus, et puis on oublie justement d'aller chercher peut-être des vilains goals, des shoots déviés. Puis sur le power play, c'est exactement ce que tu dis, Rafi. On voit Turkoulainen, on voit Onka qui cherche quasiment tout le temps à démarquer Netinen pour prendre ce shoot. Et puis clairement, le power play, il est catastrophique sur ces derniers matchs.
Netinen, c'est vrai que c'est après c'est compliqué parce qu'en fait c'est un marqueur pur, donc forcément dès qu'un marqueur marque pas, c'est le cas de le dire, bah il est pointé du doigt et tout ça. Après je pense qu'il a eu je sais plus 3-4 matchs où il a des doublés à chaque fois de suite.
Ouais, depuis le retour de Turkoulainen, en tout cas oui. On voit une sacrée différence, hein.
Ouais, mais faut les mettre au fond. On dit Turkoulainen, il lui fait des passes magnifiques, ça c'est vrai, mais il faut finir. Je pense qu'on met n'importe qui d'autre n'aurait pas autant de buts parce que voilà, c'est un marqueur, il a un super tir et puis il apporte beaucoup là-dessus, sur le power play aussi il apporte beaucoup, même si ça marche moins bien ces derniers temps. Après voilà, on sait qu'en power play on a aussi beaucoup d'autres options. On a l'année passée ça marchait super bien avec Turkoulainen qui trouvait Devos dans le milieu, on sait que ça marchait très bien. Onka aussi à la ligne bleue, il peut faire des trucs voilà. Donc je pense qu'on a beaucoup d'options. Après voilà, ça tourne pas en ce moment, mais moi je me fais pas de soucis pour eux. Ça va, ils vont trouver le moyen de faire tourner la chose.
Reste à décerner une étoile. Là aussi, il y a eu hésitations. Toujours en lien avec ces deux visages, tu parles d'Onka, il fait partie des hésitations pour moi parce qu'il est facteur déterminant dans les deux victoires. Par contre, défensivement plus laxiste contre Fribourg et Genève, je crois qu'il a un maigre moins 6 hein, sur ces deux matchs-là. Je l'ai trouvé peut-être un peu en dedans défensivement. On en attend beaucoup, hein, ça je suis conscient, j'en suis conscient aussi. Keller aussi hein, a fait de gros matchs lors des victoires, un peu en deçà, même si on ne peut pas lui jeter tous les cailloux du monde non plus sur les deux performances derrière. Du coup, j'ai quand même décidé de remettre une étoile parce qu'il me semble qu'on en a déjà mis une récemment à Gael Christ, parce que je trouve qu'il est un exemple de stabilité. On a parlé d'un HC un peu yo-yo, hein, tantôt en haut, tantôt en bas. Lui est stable, il fait son travail, il monte en puissance avec une pente, on va dire, ascendante, régulière. Il prend de plus en plus de risques. On l'a vu mettre des shoots. Le but contre Fribourg de Cormier, c'est un peu le sien aussi quand même. Et puis derrière, défensivement, ça tient la route aussi. Dans les plus minus, il est quasiment, je crois, égalité sur les quatre dernières sorties. Il doit être à moins 2. Oui, c'est ça, moins 2, je crois. Donc voilà, aussi un bilan honorable par rapport au nombre de buts encaissés. Mais c'est vraiment un jeune qui monte. Et puis, je pense que ça mérite encore une fois d'être souligné.
Compliqué de donner, c'est vrai, que cette dernière étoile à un joueur parce que oui, il n'y a pas eu beaucoup de buts et puis il y a quand même, moi je trouve il y a beaucoup de choses encourageantes quand même pour le Chargeois, hein. Oui, on a repris deux fois des scores un peu casquettes là, mais on voit des Gael Christ, effectivement, moi je te rejoins, qui est en grande progression, mais on a Jonas Berthou, comme j'ai dit avant, on a Sopa, Cormier, on a beaucoup de joueurs qui prennent une responsabilité de plus en plus. Les autres années, on se plaignait souvent qu'on avait pas de Suisse ou Achageois. Cette année, on a des jeunes qui prennent, voilà, Louis Robin aussi un peu en haut et en bas, mais quand il est en haut, ben, il est plutôt intéressant aussi. Christophe, ben, je peux pas encore trop dire parce que ouais, on manque encore un peu des matchs, hein, et puis du temps de glace, mais c'est clairement pour le Chargeois, si on veut passer un step et puis progresser, c'est ces joueurs-là qu'on a besoin, c'est ces jeunes Suisses qui doivent maintenant prendre une responsabilité et puis aussi amener, peut-être pour soulager, des Netinen, Turkoulainen qui ne se sentent pas obligés de marquer à chaque fois, mais d'avoir quatre lignes compétitives dans cette National League, c'est vraiment essentiel.
Ouais, t'as cité Avanca, je ne sais pas qui tu as donné l'épine, mais voilà, je trouvais notamment à Genève, sur les deux premiers buts genevois, j'ai l'impression des relances, entre guillemets, mais un manque de lucidité pour un joueur aussi important que lui dans l'équipe, ouais, ça pardonne pas. Et puis, sur Gael Christ, oui, je vous rejoins aussi, là, voilà, il fait preuve d'une belle progression ces prochains temps. Puis, c'est un dossier, entre guillemets, ouvert, hein, parce que je vous rappelle que le HCBN peut le rappeler à tout moment.
Oui, le HCBN qui a d'ailleurs trois joueurs de moins de 20 ans qui sont partis avec l'équipe de Suisse, qui ne seront pas disponibles pour le HCBN lors des trois derniers matchs de la saison. Et puis Steinegger semble dire pour l'instant qu'il veut laisser Christ à Ajoie parce que le rappeler, ce serait le garder ensuite à Bienne, puisqu'il ne pourrait pas le renvoyer à Porrentruy. Et Bienne semble apprécier en tout cas les minutes de jeu accumulées par Christ, notamment dans la perspective de l'avenir, j'imagine, quoi. Christ, c'est inspirant pour toi
Bah, c'est sûr que c'est bien pour lui d'avoir des minutes comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui joue simple, qui se prend pas la tête, qui est propre, il fait des bonnes relances. C'est vrai qu'en zone offensive avec le puck aussi, je trouve qu'il est très bon. Il arrive à trouver la ligne de shoot à chaque fois, là où parfois on a tendance à trop se faire contrer. Il arrive à trouver le moyen de mettre le puck sur le but. Et puis on l'a vu contre Fribourg, il marque, je sais plus contre qui il avait marqué. Il y a un mois, quelque chose comme
contre
ça.
Contre Bienne, ouais.
Contre Bienne, voilà. Ou pareil, un shoot de la ligne bleue, il arrive à trouver la ligne et puis ensuite ça rentre. Donc voilà, je pense que c'est un joueur qui nous est. Il a aussi de plus en plus de responsabilités. Il jouait un peu avec Onka. Donc voilà, je pense que c'est un joueur qui peut être que bénéfique pour nous.
On va passer à l'épine. Là aussi, hésitation, notamment entre Louis Robin, qu'on voit quand même un petit peu moins, et on va dire celui à qui je décerne l'épine un peu pour l'ensemble d'une œuvre inaboutie, c'est Pierre-Édouard Bellemare. On l'avait mis dans les épines globales, sauf quand on avait mis 3 épines et 1 étoile, je crois que c'était toi, Rafi. Sinon, il n'a jamais eu l'unique épine, pour ainsi dire. Et là, c'est un peu difficile à juger, parce que certes, il a fait que 2 matchs sur 4, ça j'en suis bien conscient lors des 4 dernières rencontres, mais c'est quand même un étranger avec 24 matchs de première triplette de manière générale, qui n'a pas encore le moindre but marqué, qui est aussi moins fiable, moins stable que l'an dernier. Il a déjà raté 5 matchs, je dis déjà parce que c'est assez rare pour être souligné quand on est Pierre-Édouard Bellemare. On a quand même cette triste impression, ou sale impression, on peut la qualifier comme on veut, que les JO obnubilent un petit peu ses pensées, et puis que parfois ça pèse un peu dans son esprit, mais en tout cas il n'est pas à la hauteur. Et puis je pense que typiquement Sizoug, il a fait un bon match aussi comme l'ensemble de l'effectif. Fribourg, il retombe dans ses travers et on n'a pas ce leadership qu'on a connu l'an dernier. Il y a quelques shoots cadrés, je les ai encore revus avant la vidéo, mais c'est poussif, c'est tirer pour tirer, il n'y a pas actuellement cette conviction. Alors est-il en plein doute, est-il entre guillemets encore une fois avec l'esprit ailleurs? C'est pas impossible à mon sens en tout cas, mais je pense qu'une fois par rapport à l'ensemble de ce qu'on a vu, peut-être même plus davantage que sur les derniers matchs, je vais mettre l'épine à Bellemare.
Ouais, moi je te rejoins, mais juste un truc là, les théories du genre il a la tête au jeu, moi j'y crois pas une seconde. Je pense que ça reste un joueur professionnel qui a une grande conscience professionnelle, et puis s'il est pas à la hauteur, c'est pas parce qu'il a la tête ailleurs, à mon avis. C'est l'interprétation que j'ai, mais oui. Alors l'autre question, c'est est-ce qu'il a 100% de ses moyens physiques?
Ça, c'est une vraie question, oui.
Voilà, est-ce qu'il est mais c'est vrai qu'il a ce côté très poussif, hein, et la statistique l'année passée, c'est 10 buts en 34 matchs, hein. Là on en est à 0, hein. On voit vraiment un fossé entre ces deux prestations. C'est pas le Bellemare qu'on a connu il y a 12 mois, ça c'est une évidence. Et dans un rôle important, on va peut-être en reparler plus tard, là, le rôle de centre, là, qui est vraiment la colonne vertébrale de l'équipe, et puis où il manque vraiment ce grand centre dominateur dans ce HC Ajoie. Et Bellemare, pour l'instant, il prend pas ce rôle.
Il y a 12 mois, Bellemare, il arrive de où? Il arrive de NHL. Il arrive d'un camp d'entraînement qui l'a poussé à fond, où physiquement il a tout donné pour pouvoir faire peut-être encore une saison là-bas. Il arrive à Ajoie en pleine condition, comme tu le dis là. Peut-être que cette année il manque de condition, mais l'année passée il sort d'un camp d'entraînement en NHL. Cette année au HC Ajoie, il est arrivé fin août, donc il manque toute la préparation physique avec le HC Ajoie. Oui, l'année passée, moi, c'était pour les jeunes joueurs, c'était vraiment un exemple, parce que tout ce qu'ils faisaient de tous les coins de la patinoire, c'était vraiment tout juste, toutes les prises de décision étaient justes. Puis on voit que cette année, c'est vraiment plus compliqué. Il perd des pucks, il est mauvais parfois dans ses placements, même si ça reste quand même un grand joueur, mais c'est vrai que on est parfois dur, parce que voilà, il a une carrière derrière lui, c'est Monsieur Bellemare, et puis on en attend peut-être beaucoup de lui. Et puis là, il déçoit. Et puis je comprends qu'on puisse mettre une épine sur la déception qu'on a sur son rendement actuel.
Il n'a jamais été surnuméraire, hein, c'est ça, cette saison?
Non, toujours. Enfin, quand il était absent, c'était blessé ou même une fois malade. Hein, ouais.
Pour reprendre les mots de Martin Bergeron, à l'époque, un étranger en Suisse qui marquait 0 but en 20 et quelques ou 30 matchs joués, il ne faisait pas très long feu dans une équipe.
Mais c'est vrai qu'actuellement, comme tu le dis, on est en panne d'un centre leader, en tout cas en termes de points. De Vos, n'a pas la confiance requise. Gauthier, c'est pas le scoreur ultime non plus. Et puis Bellemare, ça l'est pas du tout. Donc fondamentalement, on manque clairement d'un gros atout offensif. Et puis ça pèse aussi forcément sur les résultats, quoi.
Et puis lui, en parlant des mercenaires, tu parlais de la citation de Bergeron. On a aussi un défenseur qui a toujours pas marqué un but cette saison, qui est Niklas Freeman. Hein, donc ça fait quand même quelques-uns, là.
La bande du jeudi.
On va profiter d'avoir un joueur de centre avec nous pour évoquer un aspect où le HCA truste les tout hauts du tableau, un quatrième en matière de pourcentage d'engagement gagné. Le HCA cette saison, cinquième pardon, du classement, c'est nettement mieux que les dernières saisons, en tout cas de manière générale. Ben, on va te poser la question comme ça, Christophe, c'est un élément que vous travaillez régulièrement, très important aux yeux du coach aussi?
Alors, travailler, non. À la limite, individuellement, c'est vrai que des fois, entre centre, on fait des petits trucs entre nous, mais c'est pas un truc que tu entraînes forcément par équipe. Après, c'est vrai que c'est très important, c'est vraiment une partie du jeu qui est super importante, parce que ça décide si tu joues avec le puck ou pas, finalement. En zone offensive, tu peux amener des occasions de but directement sur un face-off, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, c'est vrai qu'on a aussi des spécialistes. Vous parliez de Belmar. Je sais pas combien il a de pourcentage cette année, j'ai même pas regardé, mais c'est
Konzoug, il a 83%.
C'est un spécialiste, ouais. Et c'est.
C'est pas toujours comme ça, mais.
Voilà, c'est même pour ça. Nous, les jeunes joueurs, ils nous apportent énormément. Donc voilà, même Devos, voilà, c'est qu'on peut être que des bons joueurs de centre. Après, j'avais pas la statistique qu'on était cinquième, mais bon, c'est pas grâce à moi parce que j'ai beaucoup de peine moi cette année. C'est vrai que jouer une fois à l'aile, une fois au centre, avoir 5-6 matchs entre chaque match au centre, c'est difficile de se remettre dedans, surtout quand on regarde les autres équipes, plus ou moins, ils ont tous deux centres étrangers. Un centre suisse top joueur. Donc voilà, c'est vrai que c'est les centres, c'est dans les équipes de Liga, c'est vraiment des super joueurs. Et puis voilà, être cinquième, c'est quand même une belle stat. J'étais pas au courant. Et puis faut aller chercher encore plus maintenant.
On a vu quelques goals sur des 7 plays cette année. C'est cette plaie, c'est qui les, c'est par ligne que vous discutez ensemble, ou c'est le coach qui met en place ces jeux. Cette plaie, c'est un petit jeu à l'engagement, hein, qui est prévu avant justement, et puis chaque joueur sait où il doit aller si l'engagement est gagné.
Ouais, c'est vrai qu'on a, je dirais 5-6 jeux préparés à l'avance, que disons toute l'équipe connaît. Après, il y a certaines lignes qui ont leur truc, qu'ils aiment bien, qu'ils ont pris d'ailleurs. Qui peuvent des fois amener et puis faire un petit peu à leur sauce, on va dire. Mais on a 5-6 jeux que tout le monde connaît, qui sont prêts, tout le monde sait ce qu'il a à faire pour essayer justement d'amener une occasion de but ou même un tir au but ou n'importe quoi. Et puis voilà, après toutes les équipes, quand je pense à Genève, c'est leur spécialité. Chaque match, ils ont des occasions là-dessus. Et puis c'est vrai que après, de notre côté, du coup, quand on joue contre des équipes comme ça, faut faire attention parce qu'on sait qu'ils ont quelque chose de prévu, on sait que ça va être dangereux. En match amical, je crois qu'on en avait pris deux contre eux sur un face-off. C'est là aussi l'importance d'un centre qui gagne ses engagements parce que si tu gagnes tes engagements en zone défensive, forcément, ils n'auront pas la possibilité d'être dangereux après ça.
On va dire que ça traduit le score aussi, mais Genève, c'est 35% d'engagement gagné. Pour le HCA joueur, à peine un tiers, hein, ça peut aussi expliquer, entre guillemets, une partie du score, parce qu'il y a l'aspect offensif où on peut se créer des occasions. Il y a aussi l'aspect que tu gagnes un engagement défensivement, t'as le puck chez toi, tu peux aussi changer, ramener du 109. Et des fois, c'est shift qui se multiplient défensivement. On perd beaucoup d'énergie, on peut pas changer, on perd l'engagement, on doit rester les mêmes. Ça a coûté beaucoup de buts aussi au HCA, quoi.
Ouais, c'est sûr, être acculé dans sa zone de défense, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend plus d'énergie que si t'es en attaque à essayer de marquer. Et puis, je pense ça aussi, on a beaucoup de longs shifts. Je pense surtout à la deuxième période où on est pas seulement contre Genève, tous les matchs on est acculé, on n'arrive pas à sortir. D'un coup on sort, mais c'est sur un dégagement interdit. Et c'est là que c'est super important de gagner son face-off, même si quand ça fait 1 minute 30 que tu es en zone défensive, gagner un face-off, c'est pas facile contre un joueur qui est frais en face. Mais c'est sûr, c'est face-off, comme j'ai dit avant, ça décide si en zone offensive, si tu peux avoir un shift avec le puck à essayer de marquer, ou à l'inverse, en zone défensive, tu le perds, c'est eux qui ont possibilité de marquer. Donc c'est sûr que c'est un peu le déclencheur au début de chaque shift, quoi.
Dans l'œil de la vouivre.
Allez, en avant pour le quiz avec des questions Pas forcément sur les futurs adversaires du HCA Joie, vu qu'on est un peu en période de pause et puis qu'on se revoit tout bientôt. Mais j'en avais préparé une sur notre invité, bah, qui tombe à l'eau, parce que Rafi m'a coupé l'herbe sur le pied. Oui. Donc on va faire sur le HCA Joie, puis d'autres thèmes. Donc ma première question tout de suite, c'est sur les gardiens en National League. Qui est en tête des shutouts, des blanchissages dans la Ligue? Puis combien là on a?
Nombre de blanchissages.
Ouais, puis qui est en tête de ce classement? Puis avec combien de blanchissages?
Est-ce que.
Pourcentage,
tu veux jouer en premier?
Alors, je sais pas s'il est premier, mais il devrait être en haut, je pense à Pache.
Il n'est pas dans les cinq premiers.
Moi, j'aurais dit Schliemann.
Et Schliemann est troisième avec trois blanchissages.
Rubetsch
est deuxième avec quatre blanchissages, égalité avec le premier. C'est quand même d'actualité, parce qu'on va le jouer mercredi de la rentrée. C'est le gardien de Fribourg, c'est Reto Berra, effectivement.
J'ai entendu avant quelqu'un l'a dit, non?
Oui, j'ai dit, mais en pourcentage, je sais qu'il est tout devant, mais en blanchissage, je ne le savais pas.
Exactement, ouais, j'ai entendu que tu l'as dit, mais je ne vais pas te donner la bonne réponse tout de suite, quand même.
Un peu de suspense.
Sinon, deuxième question, une question au vocabulaire de hockey, messieurs. Donc, notre invité, je suis sûr qu'il connaît la réponse. Il pourra vous aider si vous ne trouvez pas. Question vocabulaire, donc pouvez-vous m'expliquer ce que c'est qu'un wrap-around?
Un quoi?
Un wrap-around.
Moi, je ne sais pas.
Rafi.
Alors, rap et râpé.
Comme un truc que tu manges. W-R-A-P.
Ah, wrap around. Wrap around. Non, je passe mon tour. C'est tourner autour de quelque chose.
Donc, ouais. C'est, donc, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on tourne autour de quelque chose?
Par rapport à la cage.
Ouais.
Marquer le but depuis l'extérieur, depuis derrière la patinoire, c'est
Christophe.
Ça
Christophe.
Mm-hmm. Quand tu fais le tour du but et puis que tu la mets au deuxième poteau.
Voilà.
C'est ça, c'est faire le tour, c'est enrouler le but finalement, puis aller marquer au premier poteau quand le gardien est dans son déplacement, ou entre les jambes si le gardien est un peu rapide, puis qu'il vient fermer son poteau.
Alors, on va noter ça, wrap around.
Là, c'est dans l'air de Noël.
Ouais, c'est pour ça, c'est culture un peu de hockey, comme ça, on pourrait briller en société.
Et aujourd'hui, HC, on a marqué comme ça cette saison.
Je ne crois pas qu'il y a eu du wrap around en gouachage cette année, mais on a par prichéqué un big save une fois de Conn sur un wrap around.
Oui. Premier match, je pense, qu'il fait contre Berne.
Ouais. Ouais, il allait sauver comme ça avec la jambière. Donc, brille en société, chers amis, durant les pauses de Noël. Troisième question, pause internationale. Le classement des pointeurs de la Ligue est donc figé. Citez-moi dans le meilleur du classement des buteurs de National League, compteurs de National League, et les deux Suisses qui font partie du top 5. Donc, le meilleur buteur, c'est...
Buteur?
Pas le meilleur compteur de la Ligue.
Bah, Stransky.
Stransky, ouais. Ah, mais aussi buteur, Christophe. D'ailleurs.
Il doit être également buteur avec 18 buts. Il doit être aussi en tête des buteurs, effectivement. Et puis, bah, dans le top 5, on a deux Suisses.
Est-ce que vous voyez... Rochette.
Rochette en est un. Il est actuellement quatrième de ce classement. Stransky a 34 points, Rochette en a 29. Et puis, le deuxième Suisse, il joue aussi dans le même club que Stransky et qui fonctionne...
Corvi, du coup.
Oui.
Ah oui,
ouais, Enzo Corvi, qui est quand même, un vieux de la Ligue, on va dire, mais qui fonctionne encore super bien cette année. Bon, on l'a vu contre Ajoie, quand il est servi par Stransky, justement, il arrive à trouver le puck, il le met au fond. Quatrième question, 31 matchs joués dans le championnat 2025-2026. Au HCA Joie, ils sont 6 à avoir joué tous les matchs. Qui sont-ils? Donnez-moi-en quelques-uns déjà.
Onka,
oui.
Onka est dedans.
Robin
est dedans.
Pedretti
est dedans.
Motet
est dedans.
Fischer.
Et un jeune qui vient d'arriver au HCA Joie.
Bertou.
Bien joué, vous êtes tellement fort. Si bonne réponse, ouais, c'est effectivement les 6 joueurs qui ont joué tous les matchs du HCA Joie. Cinquième question, malgré les défaites... non, c'est pas celle-là.
C'est un bon début pourtant, malgré les défaites, ça me plaisait bien.
J'ai fait un bug, il y a eu un bug dans mon fichier. Donc il n'y aura pas de cinquième question, messieurs.
Mais invente, vas-y.
Invente, non, pas invente, ça sert à rien. Mais ouais, il y a eu un bug, j'ai pas pu relire, désolé. Je veux dire que j'ai dû refaire le aussi.
De ma faute, encore.
Non, c'est pas ta faute, c'est le changement d'invité. J'avais préparé un quiz et puis je l'ai refait avec le changement d'invité. Et puis il y a eu un bug dans ma cinquième question, c'est que je pensais l'avoir faite, mais elle s'est effacée. Donc on oublie, on va parler du vainqueur d'il y a deux semaines. C'était Michel qui avait posé la question. C'était rock'n'roll. De savoir combien de joueurs à Julot étaient convoqués avec l'équipe de France. La réponse est ton petit piège, mais la réponse était 3. Hein.
Oui, puisque Belmar n'y est pas. C'était ça le petit piège. Ouais.
Donc le vainqueur qui a donné parmi les bonnes réponses, c'est Léo de Courcelon qui va recevoir un cadeau estampillé la bande du jeudi tout prochainement. Et puis, ben, comme d'habitude, la question pour nos fidèles auditeurs, celle-là je ne l'ai pas oubliée. Trois légendes du club ont vu leur numéro retiré et levé au Panthéon de la Raiffeisen Arena, dont un certain Nenès Aubry, qui cherche d'ailleurs encore où sont passés les fanions qui étaient suspendus. Si quelqu'un a une idée, il faudrait les rendre. Avant de faire du Hachageois son club, le jeune Marcel allait s'aguerrir dans un autre club suisse. Oula. Donc, vous pouvez. J'ai cherché, regardé quand même sur internet si on trouvait la réponse.
On la trouve.
On la trouve quand même. Donc fouille. Les gens, vous pouvez aller fouiller sur le site, sur différents sites. Et puis, donc, en quel club Marcel Aubry est allé jouer en dehors du Hachageois avant de revenir en 1974. Donc, on attend vos réponses directement sur la page consacrée à la bande du jeudi. Et sur le site internet de RFJ où vous trouverez le formulaire réponse, où vous pouvez envoyer un mail à bdj@leqj.ch, là aussi avec la réponse et vos coordonnées.
Mais merci, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour marquer le coup de la fin d'année. Ce sera avec Kylian Motet, d'ailleurs au lendemain du match à Fribourg qui amorcera la reprise du HC Hachageois. En attendant, ben, belle semaine. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous.
Merci, avec
merci Christophe.
Bonne reprise à toi.
Merci.
Et merci Yann et Rafi, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À tout bientôt.
La bande du jeudi.